Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangu. Au micro, Mustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une radio partenaire du studio Kalangu. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Shukura sur le 105.5 MHz. Ce forum d'aujourd'hui en français a pour thème « Gestion de la réserve naturelle nationale du thermite Tintuma, force, faiblesse et perspective ». Pour une meilleure gouvernance. Située dans la partie méridionale du pays, c'est-à-dire au centre-est du Niger, la région de Zender couvre une superficie de 155 778 km², soit 12,3% du territoire national. Elle est limitée à l'est par la région de Diffa, à l'ouest par la région de Maradi, au nord par celle d'Agadez et au sud par la République fédérale du Nigeria sur près de 300 km. La région de Zender compte une population de 3 556 239 habitants en 2012, soit une densité moyenne de 22,82 habitants au kilomètre carré. C'est la région la plus peuplée du Niger, avec 20,76% de la population totale du Niger, avec un taux de natalité de 5,9% contre un taux de mortalité de 1,1% des sources de l'annuaire statistique régionale de Zender de l'année 2013. Zender compte 10 départements dont les plus peuplés sont ceux du sud, c'est-à-dire Kanté, Dungas, Magaria, Miria, avec la plus grande densité qui est de 168,42 habitants au kilomètre carré à Kanté. Les départements des zones arides du nord, Tasker, Belbeji, Gouré et Tanout sont les moins peuplés, avec la faible densité à Tasker, avec 0,55 habitants au kilomètre carré. Le potentiel forestier de la région est estimé à environ 910 727 hectares, soit l'équivalent d'environ 1 500 000 tonnes de bois réparties entre les domaines classés, 44 004 hectares, soit 31 forêts classées, et le domaine protégé, avec environ 866 723 hectares. La superficie des forêts classées en 2016 est de l'ordre de 42 606 hectares, dont 23 366 pour le département de Gouré. La réserve naturelle nationale du thermite Tintuma est la plus grande réserve terrestre d'Afrique, avec 97 000 km². Elle possède une diversité de paysages désertiques et une richesse faunistique importante et unique au monde. On y trouve plusieurs espèces remarquables menacées d'extinction telles que la dax, la gazelle d'Ama, le guépard saharien, mais aussi des espèces comme la tortue sionnée, plusieurs espèces de vautours. Donc c'est pour cela que ce patrimoine est protégé par le gouvernement du Niger qui a notamment classé ce domaine le 6 mars 2012. Quelles sont les forces et les faiblesses en termes de moyens humains, techniques et financiers dans la gestion de cette richesse naturelle? Quels sont les défis à relever pour une meilleure gouvernance dans ce secteur faunique? Ce sont là ces principales questions auxquelles nos invités tenteront d'apporter des réponses. Nous avons autour de la table colonel Maman Hamidou, il est le directeur régional de l'environnement de Zender, Abdoulaye Harouna, responsable pays de l'ONG Noé et coordinateur du PAGAP. Nous avons également Hassan Cheigou, président régional du cadre de conservation de la biodiversité, président également de l'ONG Kolia, une organisation qui appuie beaucoup dans le cadre de la gestion de la biodiversité à Zender. Nous avons également Mahaman Zen, un membre de la communauté locale du thermite Tintuma. Messieurs, mesdames, bienvenue donc à tous au forum du studio Kalangu. Monsieur le directeur, la première question est pour vous. Pourquoi l'État a-t-il délégué la gestion de cette réserve? Y a-t-il un problème de moyens?
Merci. L'État a jugé utile de déléguer la gestion de la réserve naturelle nationale du thermite Tintuma, pas à cause de manque de moyens. C'est tout juste qu'il a souhaité mettre en œuvre une forme de gouvernance légale par rapport à cette réserve. Des textes législatifs et réglementaires l'autorisent. Donc c'est une délégation qui a été concédée à l'ONG Noé et qui est vraiment dans les règles légales par rapport à tous les textes que le Niger a eu encore à ratifier sur le plan international. Donc c'est pas question de manque de moyens.
Monsieur Ablaye, donc après le classement, le Niger a délégué la gestion de cette réserve le 5 novembre 2018 à Noé, une ONG de droit français qui contrôle donc à 100% aujourd'hui cette réserve. En quoi consiste notamment cette délégation de gestion et quels sont les objectifs poursuivis?
Merci donc, je dirais Kalangou, pour cette opportunité que vous nous donnez encore une fois de plus de parler de la délégation de gestion qui au tout début a fait perdre beaucoup d'encre et de salive. Donc il se trouve que cette délégation en réalité n'est rien d'autre que la sécurisation de la RNTT grâce à la mise en œuvre de la loi, notamment la loi 90-07 du 29 avril 1998, fixant le régime de la chasse et la protection de la faune au Niger. Vous savez, c'est cette loi, son application égale à la solution de l'ensemble des problèmes qu'on rencontre à peu près dans les réserves. Donc la délégation, c'est déjà ça, la sécurisation de l'endroit. Donc, et la délégation s'intéresse également, en dehors de la sécurisation, elle s'intéresse aux questions de développement local. Donc, comme vous le savez, c'est conservation et développement local. Et le développement local passe par l'éducation, la santé, passe par les puits pastoraux, etc. Donc, et vous savez, c'est finalement une tradition pour Noé. Ça fait très longtemps que Noé est dans la zone. D'ailleurs, c'est cette confiance de longue date qui a fait que l'État justement a concédé la gestion de la réserve à Noé. Il faut dire aussi que Noé a des partenaires au niveau financier qui lui font confiance aussi depuis vraiment très longtemps, notamment l'Union européenne qui nous finance, l'AFD, l'Agence française de développement, et bien d'autres partenaires, donc tels que même local, même au niveau local, nous avons l'ONG Qualia, nous avons Banama, nous avons pas mal d'organisations avec qui nous collaborons. Donc c'est ça aussi la délégation, pour un peu faire la synthèse, c'est la sécurisation de la réserve, puis les questions de conservation et de développement local. Voilà.
D'accord. Donc, je reviens à vous, M. Chegou. Quels sont aujourd'hui les grands défis de gestion de la biodiversité à Zender et quelles perspectives pour une bonne gouvernance de ce secteur-là?
Ok, merci beaucoup. Juste, je veux rappeler que c'est le 21 mars 2014 que la société civile de Zender s'est réunie pour dénoncer vraiment les braconnages qui s'étaient tenus au niveau de la RNTT, surtout les Adaks qui ont été massacrés. Et nous avons soutenu vraiment l'administration pour vraiment donc mettre fin à ces massacres-là. Ce sont vraiment des espèces qui sont en voie de disparition. Et si on ne prend pas des mesures, vraiment on risque de les perdre et voir un jour dans les photos seulement pour dire à nos enfants, voilà les Adax. C'est pour éviter ça qu'on avait créé donc la société civile. Les avantages qu'on peut tirer tout d'abord, c'est la protection et la surveillance. Un, avec les moyens qui sont mis en place, donc on aura vraiment la protection des espèces qui sont en voie de disparition, qui sont bien, et encore la surveillance pour voir comment elles sont en train d'évoluer. Et encore la faune qui est protégée, donc là donc l'équilibre donc de l'écosystème qui est garanti. Ensuite, la mobilisation des moyens matériels, financiers, humains et logistiques. Ça aussi, c'est donc cette délégation-là. C'est des avantages qu'on doit en tirer avec les moyens que nous avons mobilisés. Et le développement local, c'est-à-dire avec les activités de vaccination que nous sommes en train de faire avec l'appui de Noé que dans la zone. Et surtout aussi, certaines activités qu'on est en train de faire pour mobiliser, adhérer donc la population à protéger vraiment les espèces qui sont menacées. Et c'est pour leur propre intérêt. Encore, améliorer la connaissance au niveau biologique, c'est-à-dire renforcement des capacités. On fait beaucoup de capacités qu'avec nous, on le fait avec dans la communauté. Surtout aussi, avec cette activité-là, il y aura donc le développement du tourisme qui va venir aussi. Parce que les gens vont venir donc voir ce qui se passe, si vraiment c'est bien protégé. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais vu de leur vie, même l'Adax qui passe. Donc, ils peuvent voir ça. Donc, c'est le tourisme qui peut se développer. Ensuite, maintenant, il faut qu'on fasse aussi que les bénéficiaires aussi, les autorités coutumières, religieuses, tout soit impliqué pour vraiment que cette préservation. Voilà les avantages pour lesquels vraiment nous sommes partants et nous sommes là pour aider aussi donc la communauté à faire ce travail.
D'accord. Monsieur le directeur, donc quels sont aujourd'hui vos rapports avec l'ONG Noé et quels sont les efforts de la direction régionale pour sécuriser la réserve naturelle nationale du Termite Ntouma?
Nos rapports avec l'ONG Noé, ils sont vraiment très excellents dans la mesure où ce rapport quand même a été balisé à travers une convention qui nous lie. Et donc, partant de là, nous participons à plusieurs activités dans le cadre de la gestion de cette réserve. Je peux citer entre autres que nous organisons des missions d'information et de sensibilisation des communautés sur le danger du braconnage. Et ensuite, nous organisons aussi des opérations de lutte anti-braconnage. Et nous organisons aussi, en collaboration avec Noé, la remise à liberté des individus quand même d'animaux sauvages, d'animaux de la faune qui a été saisie par des braconniers. Ça aussi, vraiment, c'est important. Nous avons commencé, nous sommes très avancés dans ce sens. Aussi, nous appuyons Noé dans le cadre des démarches administratives et judiciaires en relation avec la gestion de la RNTT au niveau vraiment régional. De telle sorte encore, nous participons à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d'intervention en matière de lutte contre le braconnage. Et ensuite, à côté de Noé aussi, nous participons à la sécurisation des frontières de la réserve. Au finish, donc, aussi, nous informons Noé de toute information qui est utile dans le cadre de la conservation de la faune et de la flore au niveau de la réserve. Nous avons une synergie quand même d'action entre l'ONG et donc la Direction régionale de l'environnement de Zinder.
Alors aujourd'hui, la faune est sérieusement menacée, Monsieur Abdoulaye de l'ONG Noé. Le champ pétrolier d'Agadem, situé au nord-ouest de la zone, serait une menace écologique pour la réserve. Comment arrivez-vous à gérer ce problème-là?
En fait, merci pour cette question très délicate, comme vous le savez. À l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de... En fait, la réserve est là où il y a l'exploitation pétrolière. Ne sont pas juxtaposés. Il y a une frontière, donc il y a de plus de 10 kilomètres donc, entre la réserve et là où il y a l'exploitation pétrolière. C'est qu'il faut seulement dire que les ADAX se trouvent cette fois-ci dans la zone d'exploitation pétrolière. Et vous savez que les ADAX, c'est la dernière population au monde d'ADAX à l'état naturel. Et des dispositions sont en train d'être prises à l'heure actuelle où je vous parle, grâce à des financements donc de SOS Ispichi, de l'UICN, obtenus par Noé, pour que, en étroite collaboration avec l'État, notamment donc les services déconcentrés et aussi un point focal au niveau du ministère même, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer ce petit projet ADAX, en fait, qui permet juste de faire le suivi des ADAX, de s'occuper de sa préservation. Donc, qui dit préservation, il y a le suivi, la protection, etc. Donc, jusqu'au Tchad. Comme vous savez, Noé, en dehors de la délégation de gestion, est sur un projet qu'on appelle le PAGAPS, le projet donc de gestion durable d'air protégé sahélo-saharienne Niger-Tchad, transfrontalière donc Niger-Tchad. Et on est au Tchad, tout comme on est au Niger. Donc il y aura des actions simultanées du côté du Tchad et du côté du Niger pour le suivi des ADAX. En ce qui concerne donc l'exploitation pétrolière, nous avons des relations quand même assez intéressantes avec certains exploitants, notamment Savannah Petroleum, qui souhaitent quand même une certaine collaboration. Ils me l'ont fait savoir il y a très peu de temps, donc il y a 3 jours, hein, comme par coïncidence, vous voyez. Donc, et on pense que, pourquoi pas, la CNPC aussi, hein, qui est le gros partenaire, pourrait financer un jour la conservation de la faune. C'est le pétrole du Niger, c'est la faune du Niger. Je pense qu'il n'y a pas de bras de fer. Peut-être qu'à un début, il y a eu de mauvaises compréhensions, corrigées ensuite grâce aux articulations créées par le ministère en charge de l'environnement et aussi Noé et puis les autres partenaires. Donc je pense qu'on peut dire que pour le moment, on ne se plaint pas. Il va falloir donc qu'on continue dans le sens de collaboration, tous ensemble pour défendre la biodiversité.
Monsieur Chegou, je reviens à vous. Quels sont aujourd'hui les obstacles liés à la sécurisation de cet espace qui s'étend sur une très grande partie du Niger et même du Tchad?
Donc le grand obstacle, c'est la porosité même de la frontière. Par exemple, si on prend le Tchad, la Libye, la frontière est tellement vaste, on ne peut pas les contrôler facilement. Ça, c'est un des obstacles vraiment qui crée ce genre de choses. Ensuite, maintenant, l'insécurité dans la zone. Il y a Boko Haram qui est là, il y a des bandits, n'importe quoi qui sont dans la zone. ça aussi c'est un problème sérieux pour la préservation. Et encore la présence, bon, la société d'exploitation, mon collègue venait de dire, donc ils sont là aussi, et dans le cadre de donc nous avons créé ensemble donc une synergie où ils font partie aussi ensemble pour qu'on préserve ces genre d'environnement. Voilà donc les défis qu'on devrait relever dès le moment. Mais en réalité, si on prend cette activité-là, il faut qu'on s'unisse ensemble. Nous, donc l'État, la communauté, donc la société civile, il faut qu'on se réunisse ensemble pour qu'on mette en avant vraiment la préservation comme acte qu'on doit faire ensemble. C'est ça l'objectif qu'on doit faire. Mais sinon, c'est très difficile de faire donc la préservation dans ce sens-là. Deuxièmement aussi, ce que j'aimerais proposer peut-être, c'est dans le cadre d'appui.
On viendra aux perspectives.
D'accord.
Alors, Noé, je reviens à vous avant le directeur. Vous avez certainement répertorié les espèces présentes. Est-ce que vous pouvez le compléter pour nous dire exactement quelles sont les espèces présentes dans cette réserve naturelle du Termit Tuntuma?
Dans la réserve des temps, c'est vraiment le dernier bastion de la faune saharienne. Hein. Et on a répertorié au moins 18 espèces de mammifères, hein, ce qui est extrêmement important. On parle de la dax, la gazelle d'ama, le mouflon à manchette, la gazelle d'orcas. On a aussi la grande tortue chilonnée, hein, qui se trouve que là-bas, hein, dans le Termit, et qui est quand même à une population viable. Donc ensuite, le guépard du Sahara, vous voyez, c'est assez rare. Et d'autres carnivores comme la hyène raillée. On a le chacal doré, qui peut être aussi un loup africain. Il y a beaucoup de débats autour de ça. On a aussi des petits carnivores sympathiques tels que le fennec, tels que le renard pâle, puis des chats, tels que le chat du sable, le chat sauvage africain. On a aussi Félix le caracal, qui est donc le plus gros derrière des chats. On a deux types d'outardes, l'outarde arabe, l'outarde de Nubie, pour aussi les vautours, hein, le vautour oricou, c'est le grand vautour, hein, qui a une quarantaine de lits, qui est suivi, chaque nid a un nom. Donc ça fait ça, c'est un travail de plusieurs années. On connaît les nids pratiquement, les individus. Donc, ensuite, on a aussi le vautour de Ruppel, qui est très proche du vautour oricou et dont on a récemment découvert que lui aussi, il niche dans le Termit, ce qui est excellent. Il y a le percnoptère qui fait l'objet d'un suivi international et qui se trouve aussi là-bas. Le percnoptère d'Égypte, c'est un autre type de vautour. Vous savez, c'est aussi une zone de migration pour les oiseaux migrateurs qui vient depuis le Paléarctique occidental, qui traverse le Sahara sur près de 3000 km et qui viennent se gaver dans le massif de Termit grâce aux mares intramontagneuses. Ils se gavent et ils reprennent leur route de migration. Il y a tellement d'espèces. Et il y a aussi des migrateurs afro-tropicaux, ceux qui quittent l'Afrique du Sud, qui viennent pour continuer vers l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à la limite. Et donc, comme la cigogne. La cigogne d'Abdim, vous voyez, c'est excellent. Elle est aujourd'hui ici. Elle a quitté, donc, elle fait une migration afro-tropicale.
Je reviens à vous, monsieur le directeur. Lors de la présentation des braconniers en juillet dernier, le gouverneur de la région de Zender, monsieur Issa Moussa, annonçait un programme touristique. Dans quelle mesure cela pourrait-il se réaliser quand on sait que l'accès à la zone est très difficile et comment se porte le partenariat avec les directions régionales de Diffa et d'Agadez avec lesquelles vous partagez l'espace?
Ce que je pouvais dire vraiment par rapport à ces deux questions, je pouvais dire que la question du tourisme est une vision à moyen et long terme dans le processus qui est déjà engagé à travers la reconstitution de la biodiversité au niveau de la réserve. Pourquoi? Parce que la finalité, il faut qu'il y ait une protection, une conservation, il faut que tous ces deux aspects-là soient réunis avant d'y aller au niveau du développement du tourisme. Mais c'est une vision dans le cadre de la délégation qui a été, donc, dans le cadre de la gestion déléguée par Noé. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une finalité d'aller jusqu'au niveau tourisme. Et dans ce cas, je pouvais dire que le tourisme est une source quand même d'économie locale et ensuite une source d'économie aussi pour le pays. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, il y a certains pays où leur première économie, c'est le tourisme. Nous souhaitons vraiment à la finalité quand même que vraiment nous aussi au niveau du Niger, que vraiment la réserve constitue un pôle de tourisme, d'attraction des touristes au niveau de la réserve en question. C'est-à-dire que la distance vraiment entre ne peut pas constituer une entrave de développement du tourisme dans une zone qui est bien donnée, dans la mesure où vraiment j'espère que c'est la majorité des touristes viennent quand même d'autres continents.
Monsieur Ablaye, les régions frontalières donc du Manga et la réserve de faune d'Oadi Rimé et Oadi Hachim forment une zone biogéographique cohérente et un corridor écologique naturel pour la faune sahélo-saharienne. Aujourd'hui, le projet intervient à l'échelle régionale. Au Niger, donc, nous avons le termite Tuntuma et la réserve d'Oadi Rimé que j'ai évoqué tantôt. La zone d'intervention couvre les derniers refuges de la faune sahélo-saharienne à l'état sauvage. Avec quels moyens humains, roulants et financiers arrivez-vous donc à gérer cet espace-là?
Oui, en fait, il y a deux équipes. Une équipe au Tchad, dans le cadre du PAGAPS, le projet transfrontalier, je veux dire, et une équipe au Niger. Celle du Niger, elle a bénéficié, n'est-ce pas, des acquis d'un grand projet, celui qui a conduit le processus de... Pas d'un grand projet, de plusieurs d'ailleurs projets qui ont conduit le processus de classement, le projet ASS, Antilope Sahélo-Saharienne, puis financé toujours par l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement mondial, et ensuite aussi le PCBR, Partenariat pour la conservation de la biodiversité, qui était financé par l'AFD. Donc, et ces acquis, c'est quoi? C'est qu'on a une équipe technique qui est là, opérationnelle, et avec les moyens d'ailleurs roulants issus de tous ces projets. Donc, c'est vraiment un acquis considérable, plus une base de données assez intéressante. Et il se trouve que c'est pratiquement la même équipe, donc du point de vue technique, du point de vue aussi administration, qui continue. Il y a une expérience de longue date qui facilite la gestion au niveau donc du côté Niger. Maintenant, du côté Tchad, au niveau du Manga Egué, Wadi Rimi, Wadi Hachi, on a également une équipe au niveau du Tchad qui aussi est très opérationnelle aujourd'hui avec des responsables de suivi écologique, avec un chef de projet. Et aussi, il y a une collaboration au niveau de Wadi Rimi, Wadi Hachi avec le Sahara Conservation Fund, une ONG avec qui on a travaillé longtemps aussi ici. Il y a une forte collaboration. Je pense qu'au niveau Tchad aussi, on est avancé dans la recherche des ZADAX parce qu'il fallait mettre en évidence l'existence des ZADAX. Il fallait, surtout au niveau des zones frontalières, s'il y a eu une migration des ZADAX du Niger vers le Tchad, etc. Et on continue dans le même sens. Le projet dont je vous parlais, financé par SOS Species, concerne également les deux frontières. Du point de vue technique, c'est qu'on a toujours l'appui des partenaires à gauche et à droite avec qui on fait fond ensemble. Et l'État. Parce que Noé a un principe, celui d'avoir toujours de travailler main dans la main avec l'État. Et qui dit l'État, on parle des capacités humaines. Hein. L'État, Donc, partout où nous partons avec l'État. Je suis content aujourd'hui d'avoir le DRE et cette émission. Il a sacrifié son temps, pourquoi? Parce que c'est très important aussi pour lui, la question de la RNTT. Donc nous sommes toujours comme
ça. Vous avez également le soutien de la communauté locale parce que récemment, la saisie a été opérée grâce à la collaboration avec la communauté locale.
Absolument. Vous savez, les accords sociaux, c'est le fondement même de la démarche de Noé, l'approche participative à tous les niveaux, au niveau administratif dont je vais évoquer, au niveau local, avec la communauté locale, grâce à des contrats tiroirs, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, en fait, le contrat tiroir est le seul gage pour une gestion durable des ressources naturelles. Vous ne pouvez pas conserver uniquement la faune sans impliquer la communauté locale tout seul. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Et qui parle aujourd'hui de conservation, parle également de développement local. Et la convention, les contrats tiroirs, c'est exactement ça. Noé s'engage à les appuyer en matière d'éducation, en matière de santé, de l'hydraulique pastorale. Et eux, ils s'engagent à contribuer, n'est-ce pas, à participer aux efforts de conservation de la biodiversité. Et la preuve, c'est l'arrestation de ces braconniers. Donc le contrat tiroir marche. C'est quelque chose maintenant qu'il faut généraliser aux autres milieux, aux autres réserves, à mon avis.
Monsieur Chegou, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour une bonne gouvernance de ce secteur-là?
Cette question est très importante. Une des perspectives, c'est qu'avec la préservation, avec la convention signée avec le gouvernement et Noé, l'avantage, c'est qu'il y a une gestion participative qui est là. La gestion participative, c'est quoi? La société civile fait partie, l'État fait partie, la communauté fait partie, les médias, tout le monde est impliqué dans ce sens. et en risque à ce qu'on fait partie même d'un comité d'orientation qui fait, donc, s'il y a un problème, on soumet au comité d'orientation. Voilà les solutions. Donc c'est tout à fait participatif. Ça, c'est l'avantage de la gestion. Deuxièmement aussi, il faut qu'on amène la communauté à s'approprier, comme ce qu'on vient de dire. Déjà, les gens ont pris conscience que c'est leur bien qui est commun qui est là. Ils ne vont pas laisser des gens venir s'approprier de ça, donc dilapider. Donc c'est ça qu'il faut essayer de pérenniser pour que vraiment que cette réserve là soit une chose. Et je suis sûr que d'ici 5, 6 ans ou 10 ans, on sera heureux de voir que cette faune est revenue et que la qualité est là. Et vraiment, ce sera donc une prouesse vraiment pour tout le monde.
D'accord, merci beaucoup. Monsieur le directeur, donc nous revenons à vous. La zone a été proposée donc à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006. Où en est-on par rapport à ce projet et quels sont les avantages à tirer de cette inscription?
Ce que je pouvais dire par rapport à ce dossier d'inscription au patrimoine mondial de la réserve naturelle de Tchintouma, c'est un dossier qui a subi quand même un retard. Un retard pourquoi? Parce que au départ du dossier, à l'ancienne quand même superficie de la réserve, il y avait une partie de la superficie qui était donc intruite dans le pétrolier d'Agadem. Finalement, le dossier quand même, la partie là qui était dans le bloc Agadem a finalement été extraite. Et une autre superficie donc de compensation a été classée, ce qui veut dire que maintenant, le dossier vraiment va être relancé dans le processus d'inscription au patrimoine mondial. Et ça aussi, c'est vraiment, ce sont les autorités compétentes qui doivent le faire. Et je pense que le dossier est déjà en train d'être toiletté pour qu'il puisse être relancé aussi dans le cadre pour son inscription au patrimoine mondial. Je pouvais dire, par rapport aux avantages liés à cette inscription, on peut citer entre autres, vous savez, l'inscription peut apporter de manière indéniable à la réserve une meilleure visibilité. De quoi donc jusqu'à aller au développement du tourisme quand même dans cette zone. Et ensuite, ça peut donner du prestige et de la valeur universelle à cet espace. Et ensuite, l'inscription encore peut apporter une valeur historique, culturelle et même esthétique une fois la réserve inscrite dans le cadre du domaine du patrimoine mondial.
Nous avons vu ces derniers temps, il y a une variabilité climatique qui peut également ou bien qui agit peut-être sur cette réserve-là. Alors, on aimerait savoir quel est l'impact donc de variabilités climatiques sur la conservation des espèces de la réserve aujourd'hui.
La variabilité climatique, elle est vraiment la cause de cette variabilité climatique, c'est surtout les aléas naturels. Donc c'est vraiment les aléas naturels qui contribuent donc à une variabilité quand même de ces espaces, donc des ressources quand même contenues au niveau de cette réserve. Donc à travers quand même la variabilité peut avoir quand même impacté sur la conservation des ressources à travers des sécheresses répétitives, à travers aussi l'augmentation du degré d'ensoleillement dans la zone. Et l'assèchement aussi, ça peut aller jusqu'à l'assèchement des cours d'eau et points d'eau. Et ensuite, une insuffisance et une mauvaise répartition aussi des pluies dans la zone. Donc tous ces caractères, c'est-à-dire tous ces critères-là, toutes ces insuffisances-là peuvent quand même aller à la variabilité, quand même impacter donc les ressources au niveau du terroir, au niveau de la réserve naturelle nationale de Termit et Tchintouma.
La même question, monsieur Abdoulaye, le représentant pays de l'ONG Noé. Est-ce que vous constatez des impacts liés au changement climatique?
Bien sûr, vous savez, le changement climatique, c'est une réalité. Le DRE l'a si bien dit, hein, ça impacte particulièrement le pâturage. Qui dit pâturage, vous savez, avec l'irrégularité des pluies, ça amène un déplacement des animaux, malgré les risques du braconnage. Donc ça est là, quoi. Donc c'est pour ça qu'il fallait une grande réserve, parce que le changement climatique peut conduire les animaux à aller là où cette année il y a eu de pluie et du pâturage, quoi. C'est en fonction du pâturage que se développent les animaux. Mais on a constaté, et c'est ça qui est très important, quelques stratégies d'adaptation développées par les animaux. Vous savez, la DAX, il a déjà fait son adaptation au changement climatique. Il a la réputation de ne pas boire de l'eau, même en captivité. Il trouve de l'eau dans des tubercules du Sahara, une sorte de plante qu'on appelle la cistanche Péniplia. Donc il creuse, il y a un tubercule en bas, il consomme et c'est de l'eau. Quelques verdures, n'est-ce pas, des espèces pâturées par la Dax et ça lui suffit hein, malgré sa taille. Hein, vous voyez, donc il s'adapte. Voilà, beaucoup aussi d'autres s'adaptent. Vous voyez par exemple la Dorcas, que ça soit changement climatique ou que ça soit pression anthropique, c'est-à-dire le braconnage, aujourd'hui, elle est devenue une gazelle de montagne, elle est dans le massif. Elle a changé de milieu, elle descend, elle court vers le massif. La gazelle d'Ama, autrefois, c'est une gazelle de vallée. Que ça soit pression anthropique ou changement climatique, en tout cas, aujourd'hui, elle est carrément montagnarde. Elle est dans le massif, elle vit dans le massif. Et comme il l'a dit, l'inquiétude, c'est surtout par rapport, par exemple, aux oiseaux migrateurs. Avec le changement climatique, les mares restent très peu. On suit toutes les mares intramontagnaires du massif. Toutes les mares, on a toujours, chaque année, une grosse mission qu'on appelle zone humide et suivi des oiseaux d'eau. Donc, et quand on a, effectivement, on est souvent inquiet. Avec certaines mares qui ne prennent plus de l'eau, donc ça a changé d'endroit. C'est quand même assez inquiétant. Hein. Et c'est pour ça que dans le cadre de la délégation de gestion, on pense à la régénération assistée de certaines espèces de plantes. Et malheureusement aussi, l'homme a fait un mauvais travail aidant justement le changement climatique, les déracinements des arbres, donc pour faire les fourches des maisons. Et là, il y a eu un gros forum, le qu'on appelle le forum de Tesker. Et dans ce cadre, il était prévu un appui en matériel définitif. On va faire des fers pour partager à la communauté locale au lieu d'utiliser les racines des acacias radiana en particulier, on les coupe. Et certains arbres aussi ont été détruits également par l'homme, tels que le Salvadora. Persica, parce que en fait les gens font de ça des cure-dents et ils pensent qu'il a aussi une sorte de vertu aphrodisiaque. Donc et ça contribue à la destruction des espèces. Est-ce que il est possible de faire des pépinières de ces espèces et puis bon de les revulgariser? Je pense que l'ONG Colia en avait fait un dossier, n'est-ce pas, de repeuplement, n'est-ce pas, des espèces qui sont en train de suivre, n'est-ce pas, une certaine disparition. Et c'est un sujet fort chez Noé et à travers la délégation de gestion. Il faut quand même les espèces très intéressantes qui ont de la valeur qu'on puisse les remettre, mais en même temps, il faut trouver des alternatives de la cause de leur destruction, telles que les bois de fourche pour les maisons.
Monsieur Chegou, vous êtes également le président régional du cadre de conservation de la biodiversité. En termes de défis de la gestion de la biodiversité, parce qu'ils l'ont souligné, quand on dit biodiversité, ce n'est pas seulement les espèces fauniques, il y a également la flore. Alors, quels sont les grands défis aujourd'hui à l'espace de la région dont la biodiversité est confrontée aujourd'hui?
Ok, merci beaucoup. Surtout, par exemple, le grand défi, tout d'abord, il y a des espèces qui sont menaçantes. Quand on prend, par exemple, au niveau de la dilia, des plantes envahissantes là, qui empêchent donc l'herbe de pousser pour que les animaux viennent. Et nous avons fait beaucoup d'activités avec Noé. Nous avons éradiqué cela et maintenant la verdure est venue. Ça, c'est important. Maintenant, il y a des poches où vraiment les animaux viennent. Là, comme il venait de dire, il faut qu'on arrive à planter des arbres, récupérer, amener la verdure pour que vraiment l'écosystème soit vraiment pérenne et que vraiment les animaux viennent dans les bonnes conditions, avec vraiment la conservation, avec la présence vraiment des agents des eaux de forêt qui sont bien outillés. Là vraiment on espère vraiment arriver à conserver. Et nous en tant que société civile, nous sommes là pour appuyer, c'est-à-dire que ce soit Noé, que ce soit l'administration, nous sommes là en appui. S'il y a des difficultés, nous sommes là pour les aider. Donc cela veut dire qu'à tout moment ils peuvent nous consulter, on peut vraiment agir ensemble pour que vraiment c'est un bien commun. La préservation, c'est un bien commun de tout le monde. Donc si aujourd'hui ça marche, c'est à l'actif de tout le monde. Donc vraiment, nous sommes disponibles à faire ce travail-là et pour que vraiment cette réserve-là soit vraiment une réserve qui sera reconnue mondialement et ça sera vraiment ça sera un exemple que la chance que l'État a donnée à la gestion à Noé, une ONG, c'est important aussi que vraiment qu'on sache que vraiment ça marche dans ce cadre-là. L'État sait pourquoi il a fait ça et nous sommes là pour appuyer. C'est ça l'objectif et la société civile est là pour se mobiliser pour vraiment appuyer dans ce cadre. Voilà ce que...
Mohamed Zen, les espèces en voie de disparition.
C'est la flore et aussi les adax. Ils vont et viennent, nous créons leur disparition. Les hyènes aussi ont diminué.
Qu'est-ce que vous faites pour maintenir l'équilibre?
Nous allons nous-mêmes prendre des dispositions, nous opposer à tout ce qui peut constituer une menace.
Maintenant, nous allons faire un tour de table pour voir les différentes perspectives, en tout cas, notamment pour une meilleure gouvernance de cette réserve naturelle. Donc, comment promouvoir la multiplication des espèces présentes? Monsieur le directeur.
pour vraiment une bonne gouvernance liée à la réserve, ce que je pouvais dire vraiment, c'est d'accélérer, de continuer aussi la collaboration avec les communautés locales. Parce que toute activité de conservation ou d'aménagement ne peut pas réussir sans la communauté. Mais et pour le cas spécifique de Noé, vraiment, la communauté fait partie intégrante, composante intégrante de gestion. Le service technique, les différents services techniques, eux aussi font partie, vraiment, ont une part entière dans la gestion de cette réserve. Donc, tous ensemble, le projet donc Noé, l'ONG Noé, les communautés, la société civile, les communautés locales et tous les autres partenaires qui peuvent collaborer, œuvrer dans le sens quand même de la conservation et de la protection de la réserve sont les bienvenus. Donc vraiment, je lance un appel à l'endroit quand même de tous les acteurs pour que chaque acteur amène sa contribution vraiment dans le cadre de la gestion de la réserve nationale naturelle de Termitjuntuma pour qu'elle soit vraiment un pôle touristique qui est vraiment une vision de plus hautes autorités de notre
pays. Merci, monsieur le directeur. Merci. Monsieur Abdoulaye de Noé.
Oui, et pour la délégation de gestion, la perspective majeure, c'est vraiment d'avoir déjà un décret de classement définitif et avec les limites consensuelles. C'est une porte ouverte. Hein. Le ministre de l'Environnement est à chef d'œuvre avec ses départements techniques. D'ailleurs, on a fait de longues réunions avec lui pour être sûr que beaucoup de choses sont respectées, des engagements sont respectés de part et d'autre. Et il devait y avoir une vérification par l'IGNN, c'est-à-dire l'Institut géographique national. Donc nous attendons dans cette semaine donc les résultats de leurs travaux qui seront soumis au ministre afin qu'ils puissent présenter les décrets au Conseil des ministres. La porte est ouverte. Donc c'est juste un processus et nous sommes convaincus que très bientôt ça sera réglé parce qu'il faut connaître les limites pour être très efficace.
D'accord, voilà, nous rappelons que cette délégation de gestion a une durée de 20 ans.
Oui, c'est sur 20 ans parce que, bon, vous savez, la délégation de gestion, pour voir concrètement les choses en matière d'environnement, il faut du temps. On a essayé les petits projets, ça donne rien. Vous savez, c'est le modèle qui marche le plus aujourd'hui dans le monde entier. Si vous prenez, par exemple, au Tchad, on a calqué en fait ce modèle avec une ONG sud-africaine qu'on appelle African Parks Network, APN, qui déjà a plus de 16 réserves, n'est-ce pas, en Afrique, sous sa gestion. Et l'efficacité, on l'a vu, on est parti avec le ministre de l'Environnement, avec ses départements, avec ses responsables techniques pour visiter Zakouma. C'est le meilleur parc aujourd'hui au monde du point de vue gestion, efficacité dans la gestion. Et nous voulons que la réserve des termites et Tintouma soit également comme ça. C'est le tout premier exemple de gestion déléguée du Niger. Donc il faudrait qu'on arrive à réussir ceci et on a l'appui de l'administration, on a l'appui au niveau politique également. C'est ça qui nous encourage le plus. Le ministre de l'Environnement, ses différents démembrements, en fait ils sont vraiment avec nous, tout comme derrière la thèse, le directeur régional, la présence du directeur régional de l'environnement.
D'accord. Monsieur Hassan Chegou, en termes de perspective, une minute.
Ok, merci beaucoup. Vous savez, ce qui me fait vraiment la joie avec l'avènement donc la signature de la convention avec Noé. Vous savez, avant même cette signature, déjà, on a pris des perspectives. Noé nous a financé, on était parti jusqu'à Bilma, jusqu'à Fachi, jusqu'à Tabelote, donc dans le cadre de la vulgarisation de la loi contre le braconnage. Vous savez, ça, c'est important. Avant de mettre en place cela, avant d'appliquer, il faut que les gens sachent c'est quoi cette loi qu'ils disent. Et ça, vraiment, l'environnement nous a aidé à faire cette activité de sensibilisation. Déjà, les gens sont préparés actuellement. Donc, cela veut dire que maintenant, avec cette perspective, vraiment, si la délégation va commencer, on pense que vraiment la population est engagée et nous pensons que vraiment on va travailler main à main pour que vraiment cela soit
pérenne. Merci, monsieur Hassan. Et c'est avec vous que nous allons clôturer ce débat. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons discuté sur le thème gestion de la réserve naturelle nationale du Termitjuntuma, force, faiblesse et perspective pour une meilleure gouvernance. Nous pouvons retenir que cette réserve la plus grande d'Afrique est confrontée à des défis aussi bien anthropiques que climatiques, mais avec la conjugaison des efforts et surtout les moyens mis par l'ONG Noé qui a la charge de la gestion de cette réserve sur une durée de 20 ans et la collaboration de la Direction régionale de l'environnement de Zender et la communauté locale, on peut donc espérer un lendemain meilleur et surtout l'espoir d'un développement du tourisme et l'inscription également de la réserve au patrimoine mondial de l'UNESCO. On avait discuter avec le colonel Maman Hamidou, il est le directeur régional de l'environnement de Zender, monsieur Abdoulaye Harouna, responsable pays de l'ONG Noé, coordinateur du PAGAPS, Hassan Chebou, président régional du cadre de conservation de la biodiversité, président également de l'ONG Kolia. Merci et au revoir.